Radio Grand-Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Madame la préfète d'Eure-et-Loire, Sophie Broca. DESS de Sciences Po Paris, elle crée une société de presse qu'elle revendra pour préparer l'ENA. En effet, elle est plus attirée par la cause de l'intérêt général. La préfectorale lui convient donc très bien. Son premier poste en Charente lui permet de découvrir tous les secteurs qui lui plaisent. Sécurité, logement, création d'entreprise. Après 15 ans dans la carrière préfectorale, elle devient conseillère du cabinet du président du Sénat, puis du président de la République, François Hollande. Elle prendra ses fonctions à Chartres le lundi 13 mars 2017. J'ajouterai que Madame la préfète est également écrivain. Madame la préfète, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, vous êtes la première femme à la tête du département d'Eure-et-Loire. Ce doit être une grande fierté. Qu'avez-vous donc éprouvé quand vous avez déposé la gerbe ?
Bien, vous l'avez dit, fierté.
Fierté.
Fierté, émotion. On arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas bien,
oui,
ou qu'on découvre. Hein, et il faut à la fois avoir l'humilité de se dire qu'on va apprendre avec... nos partenaires, les élus, les chefs d'entreprise, les chefs de services de l'État, à découvrir et à comprendre l'âme de ce département.
Mmh.
Et en même temps, avoir la capacité à dire qu'on incarne les valeurs de l'État. Donc c'est à la fois une grande fierté, une grande émotion et une grande aventure.
Oui, et revêtir l'uniforme également.
Oui, mais l'uniforme, on le revêt. Quand on rentre dans la carrière préfectorale, on a un uniforme. Donc,
oui,
l'uniforme, ça fait 15 ans que je le porte.
Oui.
Donc, voilà. Après, on est, quand on dépose sa gerbe en tant que préfet du département, on est le premier représentant de l'État. Donc,
c'est
on
ça.
Est un peu en premier. Et d'ailleurs, préfet, ça signifie en latin praefectus,
oui,
celui qui est
ça.
En avant.
Oui.
Voilà. Donc, on ressent dans sa chair le fait d'être en avant.
Oui, c'est quelque chose presque de magique de se dire maintenant je suis responsable d'un département.
C'est magique, mais quelle responsabilité.
Ah, bien sûr.
Quelle responsabilité, parce qu'à un moment, il est clair que quand on est chef,
oui,
on doit aussi à un moment trancher seul. Il faut écouter,
oui,
échanger, réfléchir à plusieurs parce qu'on est sans doute et à coup sûr plus intelligent à plusieurs que tout seul. À un moment, la décision, on la prend dans la solitude.
Exactement. Donc, pour une femme, est-ce que vous pensez que c'est plus difficile ? Non, moi, je ne vais pas faire les demander les réponses. Mais...
Non, je pense que pour une femme, ça n'est pas plus difficile. Peut-être qu'on exerce ce métier avec ce que nous sommes, mais comme les hommes aussi. Mais ça n'est pas plus difficile. Parfois, on a l'impression que lorsqu'on est une femme dans un métier d'autorité...
Oui, oui, parce que c'est ça, en fait.
Il faut... peut-être que les partenaires, à moins que ce soit nous-mêmes qui fabriquions cette impression, mais on peut avoir le sentiment qu'il faut prouver plus, que les partenaires attendent, testent,
oui,
la personne... Mais le fait d'être une femme n'est, à mon sens, ni un avantage ni un désavantage. Ça,
oui,
dépend comment on habite cette
mais
fonction.
Mais peut-être prouver plus, c'est déjà quelque chose d'important. Alors, vous êtes donc dans le département depuis un an. Vous êtes donc en Eure-et-Loire. Quelles ont été vos impressions et votre conception de cette mission préfectorale que vous avez maintenant à plein temps ?
Alors, mes impressions. Un département magnifique.
Oui.
Un département qu'on...
La Beauce.
Mais un département magnifique dans sa diversité.
Oui.
Un département qu'on ne connaît pas assez, qui gagnerait à mieux se montrer, à mieux se dire, à mieux se vanter de lui-même, à se faire mieux connaître.
Ah oui, vous trouvez qu'on n'est pas assez connu en France.
Oui, et vous avez ce département a des atouts, des trésors,
bien
incroyable,
sûr,
la beauté de ses paysages, la générosité de sa terre,
oui,
la diversité de ses paysages.
Mm-hmm.
Hein, je vous parlais de la Beauce. Oui, alors la Beauce frissonnante, Quand le blé est en herbe,
Oui.
magnifique, mais le Perche vallonné, même si c'est un territoire de passage, magnifique aussi avec ses bocages, terre généreuse où presque tout peut pousser, une proximité de Paris.
Oui.
Et la douceur de vivre de la province,
Oui.
des gens formés.
Oui.
Voilà, enfin, des tas de qualités après un tissu industriel qui est puissant, des spécialités comme la pharmacie, la cosmétique ou l'agroalimentaire. Voilà, des tas de choses très intéressantes. Le patrimoine. Bon, on
Oui.
parle évidemment de la cathédrale. La cathédrale vient à l'esprit de tout le monde, elle est mondialement connue.
Oui.
La cathédrale, bien sûr, mais tellement d'autres choses, des
Bien sûr.
manoirs. Des cours d'eau, des châteaux, Anet, la chapelle royale, le château Saint-Jean ici, enfin,
Oui.
etc. Bon, voilà,
Et
et
nous
tout
en sommes
ça.
très fiers de notre château
Mais
Saint-Jean, à nos gens.
vous
Et...
avez raison, et Monsieur le maire se préoccupe
Oui.
de le mettre en valeur. Mais tout ça n'est pas assez montré, pas assez exalté, et nous avons du mal à attirer des médecins, nous avons du mal
Ça,
à
c'est notre
attirer des
problème, oui.
ingénieurs, des cadres et même des fonctionnaires d'État. Voilà, donc là, je pense qu'il y a une bataille à mener tous ensemble, État, élus, pour donner à voir ce beau département. Donc voilà, un beau département qui gagnerait à être mieux connu, ça c'était ma première impression. Ma deuxième impression, c'est qu'on a affaire à des élus ici qui, pour une bonne partie d'entre eux, ont envie de changer le réel,
Oui.
transformer, améliorer. Donc ça, c'est pour le représentant de l'État que je suis, c'est tout à fait appréciable.
Positif, oui.
Voilà, bon, mes impressions. Alors ensuite, la façon dont j'envisage mon métier, eh bien, pour moi, un préfet, c'est symboliquement trois choses. C'est une grille de préfecture, un drapeau et une table. Alors, je vais commencer par le drapeau, d'ailleurs, plutôt que par la grille. Le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est là qu'on veille à ce que les valeurs de la République qui nous permettent de vivre ensemble, la liberté, l'égalité, la fraternité, la liberté, l'égalité sont des droits. La fraternité est plus une obligation morale. Donc, que ces valeurs-là soient respecter, approfondir, expliquer, voilà. Et aussi ce drapeau, ça fait partie de mon métier, il vise à rappeler que nous sommes un pays de droit et que la loi doit
À
s'appliquer.
tout le
Dans
monde.
mes fonctions, il y a ce travail, même si je ne suis pas la seule, bien sûr, que la justice l'exerce. Naturellement, dans mon travail, il y a le fait de vérifier que la loi est bien appliquée.
Appliquer, oui.
Voilà, donc un drapeau, des valeurs et le respect de la loi. Une grille, c'est à la fois l'idée de la protection, mais c'est aussi l'idée que devant ces grilles, on peut venir manifester son désaccord.
Ouais.
Symboliquement, même quand c'est pas le préfet ou même quand c'est pas l'État qui est responsable, souvent les manifestants viennent
Ouais.
dire leur mécontentement devant la préfecture. Et c'est la fonction aussi de démocratie. On a le droit dans ce pays, dès lors qu'on respecte la loi et qu'on n'est pas dans la violence et dans l'excès et dans
De
l'outrage,
dire ce
on
mécontentement.
a le droit d'exprimer une pensée libre
Oui.
et de ne pas partager un point de vue. Dès lors que ça se dépasse
Oui.
dans une relation pacifique et non pas
Bien
violente.
sûr.
Voilà. Et puis c'est une table autour de laquelle on s'assoit à l'invitation du préfet, soit pour y travailler, soit pour y déjeuner. Et quand on s'assoit pour travailler ou pour déjeuner, eh bien, on essaie de rapprocher les points de vue.
Oui.
Et le préfet, son rôle, c'est aussi de faire du lien, de mettre autour de la table des gens qui ne se parleraient pas d'ordinaire ou qui ne sont pas d'accord, pour essayer de trouver un chemin commun qui permette de dépasser des divergences.
Oui, donc trois symboles forts et que vous allez donc encourager par votre travail.
Ben, je l'espère en tous les cas, c'est ce que le gouvernement attend de nous.
Alors, vous aimez être sur le terrain car vous faites régulièrement des visites dans le département et aujourd'hui, vous êtes à Nogent-le-Rotrou, nous en sommes très honorés. Alors, vous avez parlé aussi de votre correspondance avec le maire de notre ville, avec les transformations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet pour Nogent-le-Rotrou puisque aujourd'hui, nous sommes dans cette ville?
Alors écoutez, d'abord j'essaie en effet de me déplacer En tous les cas, je fais plusieurs visites de terrain, soit dans des communes, soit dans des entreprises, soit dans des associations chaque semaine. Je suis venue une bonne quinzaine de fois dans l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, soit à Nogent même, soit dans d'autres communes de cet arrondissement. Naturellement, je rencontre le maire, Monsieur Huvard, régulièrement. Mais je suis allée la semaine dernière à la rencontre de Madame Pistre,
oui,
à Frasé. J'ai vu, il y a plus longtemps, le maire de la Chapelle-Royale, Monsieur Blonsky. Je suis allée également, il y a quelque temps, à Thiron-Gardet. Voilà, c'est le sous-préfet me propose des visites et c'est l'occasion pour les élus de me montrer leurs réalisations dont ils sont fiers, de me parler de leurs difficultés pour lesquelles nous essayons de trouver ensemble des solutions et de me présenter leurs projets, puisque ensuite l'État va pouvoir, si ces projets rentrent dans ses priorités, venir en soutien financier, juridique, technique. Voilà. Donc je rencontre régulièrement dans ce département, comme je suis allée aussi voir un certain nombre d'entreprises de votre arrondissement, des entreprises de la cosmétique, de l'agroalimentaire à Vallégrin. Enfin voilà. Donc B. Brown dans le domaine de l'équipement médical. Donc c'est important pour moi de rencontrer les gens, les élus, les chefs d'entreprise, les responsables d'associations, parce que on ne comprend jamais mieux
que sur le terrain.
Oui, les choses de l'intérieur, que quand ceux qui le vivent, qui connaissent intimement la problématique, vous l'exposent.
Oui. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a des projets que vous avez pu encourager dans cet arrondissement ? Il y en a gens peut-être.
Alors, à Nogent, je parlerai peut-être de deux sujets ou trois sujets. D'une part, nous accompagnons, l'État accompagne avec la direction des affaires culturelles de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, la transformation et la mise en valeur du château des Comtes du Perche.
Oui, des travaux considérables.
Nous avons et nous continuons d'accompagner l'installation sur ce territoire d'un atelier de découpe de l'entreprise Vallégrin, qui va être un des fleurons industriels pour nos gens en termes de produits de la filière porcine de qualité, mais aussi ça va soutenir un certain nombre d'éleveurs du Perche.
Bien sûr.
Donc c'est très important. Donc là, on accompagne.
Alors, je suis très contente que vous disiez ça, parce que pour nos auditeurs nogentais, c'est un point très important.
Absolument. Et puis, nous avons accompagné la visite de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, qui est venu ici participer à une conférence qui a permis de créer, de lancer, et le sous-préfet de Nogent était très actif dans ce projet, une association qui s'appelle Perche Impulse et qui vise à regrouper des chefs d'entreprise, les services de l'État pour faire qu'ensemble, on puisse promouvoir l'emploi et l'économie dans ce territoire, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'image d'un territoire qui est en déprise économique continue de coller à la peau de nos gens, c'est faux. C'est faux. Ce territoire se développe, accueille des entreprises, attire, et il faut le dire et il faut le faire savoir.
Eh bien, écoutez, un grand merci pour nos gens. Et nous allons, si vous le voulez bien, marquer une pause musicale.
Thank you.
Je suis toujours avec Madame la préfète de Ré-Loire, Sophie Broca, qui a évoqué dans un premier temps son plaisir, sa joie et aussi ses responsabilités qui sont les siennes dans le Ré-Loire. Alors j'aimerais bien maintenant que nous abordions le domaine de la culture, Madame la préfète.
La culture
en Eure-et-Loire.
C'est indispensable pour vivre.
Ah, c'est indispensable.
Pour comprendre le monde.
C'est bien pour ça que je commence par ce domaine, qui m'est pour moi très cher.
Pour le regarder différemment, ce monde tel qu'il va. Écoutez, la culture, d'abord, les élus sont souvent très actifs eux-mêmes dans ce domaine, prennent des initiatives, soutiennent des festivals, des concerts, des théâtres. Voilà, l'État, moi je pense que c'est très important et que l'État a toute sa part à prendre et l'État le fait. Alors, 2-3 exemples. Il y a une pépite dans ce département qui se trouve à Illiers-Combray.
La maison de Proust.
C'est la maison de Tante Léonie.
Oui.
Et la maison de Tante Léonie, qui est dirigée par la Société des Amis de Proust, on est en train de travailler avec la ville d'Illiers-Combray, avec les services de l'État de la culture, avec le département, avec la Société des Amis de Proust et avec l'intercommunalité et la députée. Donc vous voyez là, ça c'est un sujet consensuel pour Proust. Mmh. Tout le monde, non pas se lève, mais se met autour de la table. À préparer
surtout qu'on a des étrangers, beaucoup de Japonais,
oui,
qui sont très intéressés par Proust.
Oui, il y a des proustophiles ou des proustolâtres partout dans le monde.
Bien sûr.
Et donc, on est en train de travailler à toute une série d'événements dans la perspective de 2019, centième anniversaire du Goncourt de Proust à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et je viens d'écrire la semaine dernière au président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot, pour lui faire part de ses projets et lui dire qu'en tant que représentante de l'État, je trouverais bien que l'Académie Goncourt s'investisse
à nos côtés.
C'est une
très bonne nouvelle, très bonne nouvelle.
Voilà, culture toujours, nous avons avec le maire de Dreux le projet de créer une microfolie qui est une espèce de musée virtuel dans lequel le grand public, mais aussi les enfants des écoles de ce département pourront, qu'ils habitent à la campagne ou dans les quartiers de la ville, pourront accéder aux 250 œuvres majeures des plus grands musées français, du Louvre en passant par le Quai Branly, le Château de Versailles et d'autres, et le musée d'Orsay. Donc là, dans cette espèce de petit musée virtuel qu'on va venir loger à Dreux, dans un établissement qui existe, le maire de Dreux est en train d'y réfléchir pour l'implantation. On aura accès, vous, moi, tous les enfants, aux 250 plus grandes œuvres du patrimoine français.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle.
Pour nos gens, le retrouve.
Mais en tous les cas, ce sera accessible à tout le monde.
Oui.
Ça ne sera pas que pour les Drouais, naturellement. Et puis, un troisième exemple d'une initiative que j'ai prise en matière de culture, j'ai invité en novembre dernier Éric Orsenna, prix Goncourt, et Alexandre Jardin, le président de Lire et Faire Lire, l'association qui permet aux personnes à la retraite de venir faire de la lecture aux petits-enfants dans les écoles. Ils sont venus à la médiathèque de Chartres en présence de tous les responsables de médiathèque du département et des élus pour discuter avec nous de la façon dont on pourrait désormais ouvrir sur la base du volontariat les bibliothèques le dimanche pour que les enfants qui n'ont pas la possibilité d'y aller en semaine et les parents avec eux aillent dans ces lieux de culture pour partager un moment de lecture, de découverte.
Ah, mais ça, c'est très bien. On voit que vous êtes écrivain et que vous aimez aussi la culture. Vous aimez la culture, pas aussi. Et je dois dire que je suis ravie de savoir que la médiathèque sera ouverte le dimanche, parce que combien de gens qui travaillent toute la semaine n'ont pas le temps d'aller à la bibliothèque? Et cette médiathèque, elle est magnifique.
Hein. Magnifique.
C'est un très bel endroit. On peut en parler parce que c'est quand même assez nouveau dans Chartres. C'était la Poste. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a été une très, très belle réalisation. Alors ça, c'était la culture. Dans d'autres domaines, je pense à l'économie en particulier. Quels sont vos projets aussi?
Alors, le préfet, il est là pour
accompagner.
Voilà. Hein, le préfet ne crée pas l'activité, il facilite.
Mais vous aidez.
Il facilite, il accompagne les Les premiers sont les capitaines d'industrie. Voilà, ce sont eux qui sont les moteurs. Ils sont aussi très accompagnés par la région qui désormais possède la compétence et par et par les intercommunalités ou les villes. Voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on aide les entreprises en difficulté, par exemple. Une entreprise qui passe une étape difficile dans sa vie peut solliciter et doit solliciter dès que possible les services de l'État, parce que nous pouvons, chaque mois, nous réunissons une commission où nous accordons des délais pour payer les impôts, les URSSAF, pour donner un peu d'air aux entreprises. Nous pouvons aussi mobiliser la Banque publique d'investissement qui va venir en soutien financier à côté des banques pour aider une entreprise à passer un cap difficile. Nous pouvons aussi, c'est pas de l'argent, mais c'est du temps, et donc pour les chefs d'entreprise, c'est de l'argent. Nous pouvons aussi, pour les implantations, quand il y a des projets complexes qui mobilisent, il faut une autorisation parce que l'entreprise présente certains dangers pour l'environnement, il faut une autorisation de ceci, de cela.
Vous allez faciliter.
On facilite pour que du temps ne soit pas perdu inutilement et qu'il y ait une bonne coordination des services de l'État pour ce qui les concerne. Mais ça peut être aussi, ça c'est une initiative que j'ai prise suite à la visite dans le département de la secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap, Sophie Cluzel. J'ai lancé en décembre, avec un certain nombre de chefs d'entreprise, un club des entreprises qui s'engage pour accueillir des personnes handicapées.
Mais ça, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, je ne le savais pas, et je suis très contente que vous en parliez dans notre radio.
Donc, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise, le patron d'Andros, qui accueille d'ores et déjà, qui est un homme extraordinaire et qui accueille 10 salariés autistes dans l'entreprise, qui travaillent comme tous les autres salariés et qui parfois, de l'aveu même des autres salariés, travaillent mieux et sont plus précis qu'eux-mêmes, en passant par le Crédit Agricole. Enfin, il y a tout un tas d'entreprises du département. Là, pour l'instant, le club représente à peu près une dizaine d'entreprises, Steph, etc., qui disent « oui, on est volontaire pour accueillir des personnes en situation de handicap. Moi-même, j'aimerais accueillir une personne atteinte de trisomie 21 à la résidence du préfet pour une formation, pour aider cette personne à apprendre un métier autour du service ou du jardin ou de la cuisine. » Voilà. Donc,
ça, c'est très bien, parce que c'est l'exemple aussi. Après, voilà, vous êtes suivi, et c'est très bien de commencer par la préfecture. Les autres vont suivre, j'imagine.
Alors, à la préfecture, ou dans les... En tous les cas, à la préfecture, on a déjà un nombre de travailleurs handicapés important. On est au-delà de l'obligation légale des 6% de salariés ou de fonctionnaires en situation de handicap, mais nous n'avons pas de handicap mental. Et c'est ça que je voudrais expérimenter avec la complicité du cuisinier qui travaille à la résidence préfectorale, pour voir si on peut là écrire une histoire nouvelle.
Oui, très bonne idée. Alors aussi, je pense à la sécurité, parce que j'ai remarqué souvent que quelquefois les sous-préfets accompagnaient les gendarmes pour faire quelques incursions dans certains quartiers, pour voir si les voitures étaient aux normes. Qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que vous appuyez ces projets-là ?
Alors, les sous-préfets, ils sont régulièrement, mais moi aussi j'y vais parfois moins souvent qu'eux, mais ils sont régulièrement associés aux services de police ou de gendarmerie pour les contrôles routiers.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce que j'en pense ? Mais j'en pense que dans ce département, c'est une catastrophe. Je le dis régulièrement, je le déplore dans la presse, je me mets en colère, rien n'y change. Naturellement, ça n'est pas ma parole qui va changer le comportement des automobilistes, et on ne pourra jamais mettre un gendarme assis à côté de chaque conducteur. Mais on a 44 morts l'année dernière.
Ah,
c'est une hécatombe. C'est une hécatombe en termes de vie brisée, de familles en larmes, de souffrance. La moitié de ces morts ne sont pas responsables de l'accident.
Ah, c'est horrible.
Voilà. Et donc, ça ne va pas dans ce département. On conduit trop vite. Il y a des fautes de conduite, des problèmes de comportement, de gens qui prennent le volant en ayant trop bu, en ayant consommé des stupéfiants, ou qui regardent et qui répondent à sur leur portable, à un texto, etc., tout en conduisant.
Ah, l'horreur.
Donc voilà, oui, il faut qu'on maintienne On fait beaucoup de prévention, beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie avec les jeunes, avec les enfants dans les écoles, mais il faut aussi de la répression puisque la prévention ne suffit pas. Donc nous continuerons, et les sous-préfets avec les gendarmes et les policiers, à être présents sur le bord des routes, naturellement. Pour le préfet, la sécurité, c'est aussi l'ordre public.
Bien sûr.
C'est aussi la lutte contre la radicalisation, c'est aussi s'entraîner, faire des exercices grandeur réelle autour du risque d'attentat terroriste, puisque personne
oui.
n'est
alors
à l'abri.
Alors ça, j'aimerais que vous en parliez, parce que je crois qu'il y a eu une opération particulière pour à ce sujet.
Absolument. Nous avons, en juin dernier, organisé ce qu'on appelle dans notre jargon un exercice Novi Attentat. Novi Attentat, ça veut dire attentat de masse, enfin avec de nombreuses victimes. Et donc, nous avons organisé, avec la complicité de l'agglomération de Chartres, dans un supermarché désaffecté en banlieue de Chartres, nous avons organisé sur une journée un exercice où des preneurs d'otages et des terroristes prenaient en otage les clients d'un supermarché. Et donc nous avions 400 intervenants, 400 joueurs.
400 ouais. intervenants.
On a fait venir le RAID, on a fait venir la police judiciaire d'Orléans. Bon, enfin voilà, c'est à quoi servent ces exercices précisément? À tester nos modes opératoires, notre capacité à nous coordonner. Il y avait bien sûr le SAMU qui avait fait des plastrons avec des fausses blessures pour vérifier que les services médicaux étaient capables de trier rapidement entre les blessés graves et...
Ça, c'est bien de dire ça sur notre antenne, parce qu'on n'imagine pas que vous êtes tellement sur le terrain, je dirais.
Ah ben si, il faut tester. Alors tout ça, ça permet de mettre en évidence les points forts et les points faibles pour essayer de les améliorer. La sécurité, c'est aussi, par exemple, l'épisode neigeux qui a traversé le département.
Justement.
Et qui nous a valu des heures de travail et des nuits blanches pour essayer de contenir l'avancée des poids lourds.
Mais vous avez été récompensé parce qu'on pouvait suivre heure par heure, je le disais hors antenne d'ailleurs, heure par heure, on suivait l'épisode de neige. Et je pense qu'il y a eu beaucoup moins d'accidents grâce à cela.
Oui, alors je me suis mise un peu en colère parce que j'ai trouvé que certains poids lourds n'avaient pas un comportement très civique et ne respectaient pas les interdictions de rouler. Voilà, mais en même temps, on apprendra aussi de cet épisode.
Alors, un message que vous voulez passer, parce que le temps va trop vite pour nous.
Bon, écoutez, merci de votre invitation, Christiane Blin, c'était un vrai plaisir. Je reviendrai quand vous le désirez. Voilà, je veux dire ma joie d'être dans ce beau département, la richesse des gens. On n'a pas parlé d'agriculture, on n'a pas parlé d'eau.
Vous reviendrez.
Mais voilà, mais c'est un beau département plein de richesses.
Un grand merci, Madame la Préfète. Et donc, je dis à bientôt.
Merci, Christiane Blin.